Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Il y a des formes graves, elles sont en très 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 nette augmentation. Au début de l'été, on pouvait être confiant. Maintenant, ce n'est pas la confiance, c'est l'inquiétude et la très grande inquiétude si ça ne s'arrête pas.
Les services de réanimation sous tension dans les Bouches-du-Rhône. Sur les 70 lits dédiés aux patients Covid, il n'en reste plus que 3 de disponibles. Le gouvernement planche sur un raccourcissement de la période d'isolement. La quatorzaine pourrait bientôt passer à une semaine. Un homme qui pourrait être impliqué dans la mutilation de plusieurs chevaux, interpellé dans le Haut-Rhin. Les détails à venir de Guillaume Bié. La France est malade de son insécurité, affirme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui semble renouer sans le dire avec la politique du chiffre prônée en son temps par Nicolas Sarkozy. L'émotion au procès des attentats de janvier 2015. Les images insoutenables de l'attaque de Charlie Hebdo ont été diffusées aujourd'hui. Il y aura bien des spectateurs dans les tribunes de Roland-Garros, mais moins que prévu, le tournoi s'adapte face au regain de l'épidémie. La météo de demain, agréable et encore estivale, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris termine en forte hausse ce soir, plus 1,79% à 5053 points. Didier Hamot de boursier.com nous expliquera ce rebond. L'interview Echo à 22h20. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Frédéric Rossi de Business France, le gouvernement qui veut développer le VIE, le volontariat international en entreprise. Et puis on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
S'il est encore trop tôt pour parler de deuxième vague, le constat n'en reste pas moins très inquiétant. 4203 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures. Plus de 29 000 en tout ces 4 derniers jours. La progression de l'épidémie s'accélère, tout comme les indicateurs hospitaliers. Dans les Bouches-du-Rhône, les 70 lits de réanimation dédiés aux patients atteints du Covid sont désormais quasiment tous occupés. Il ne reste plus que quelques places, Nathalie Chevance. C'est ce que vous avez pu constater cet après-midi à l'hôpital Nord de Marseille.
Oui, en une semaine, ici, le nombre de patients a doublé. Ils sont 7 actuellement intubés et il n'y a plus que 3 lits disponibles dans cette unité Covid. Des malades âgés de 50 à 85 ans qu'il faut parfois transférer dans d'autres hôpitaux pour trouver de la place. Bref, c'est le même scénario qu'au début de l'épidémie, pointe le professeur Papazian, chef de la réanimation à l'hôpital Nord.
Il y a des formes graves et elles sont en très 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 nette augmentation. Au début de l'été, on pouvait être confiant. Maintenant, ce n'est pas la confiance, c'est l'inquiétude et la très grande inquiétude si ça ne s'arrête pas et si on ne prend pas conscience, en particulier dans notre ville, qu'il y a un grand danger à ne pas se protéger et protéger les autres.
Et à l'hôpital, les lits sont réarmés. Tout le protocole de soins et de protection est de nouveau en place. Natacha, infirmière, répète les mêmes gestes et les mêmes paroles qu'au plus fort de l'épidémie.
Ben là, on revient un petit peu tout ce qui est détresse des familles. Cette notion-là de pas de visite. Donc c'est très dur pour les patients qui commencent à se réveiller et qui sont tout seuls. Après, on sait comment prendre en charge, mais on ne sait pas le nombre, on ne sait pas comment ça va se passer. On a encore plein de points d'interrogation.
Avec aussi un objectif, ne pas mobiliser tous les lits de réanimation pour les malades du Covid, afin que les opérations et les urgences classiques puissent être traitées normalement.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Et dans ce contexte de regain de l'épidémie, le gouvernement s'interroge sur la durée de la quatorzaine. Aujourd'hui, si vous êtes testé positif ou avez été en contact avec une personne infectée, vous devez rester chez vous pendant 14 jours. Trop long, juge le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a demandé aux autorités scientifiques de donner un avis. Anne Le Gall, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Où en est-on de cette éventuelle réduction de la durée d'isolement ?
On attend l'avis du conseil scientifique dans les jours qui viennent, car effectivement, le gouvernement pense qu'un délai plus court serait mieux respecté, puisqu'en pratique, ce n'est pas simple effectivement de rester chez soi 2 semaines loin de son lieu de travail, isolé de ses proches. Alors, beaucoup d'experts estiment qu'effectivement, la quatorzaine pourrait être réduite à 1 semaine, car c'est au début de la maladie, dans les 5-7 premiers jours, qu'on est le plus contagieux.
Anne, des médecins alertent également sur les tests. Les laboratoires sont actuellement débordés, et le problème, c'est que dans les files d'attente, il y a tout type de profils.
Oui, on trouve aussi bien des patients qui ont des symptômes que des personnes inquiètes parce qu'elles ont un proche fragile. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un test pour prendre l'avion. D'où l'appel de certains médecins pour qu'on hiérarchise toutes ces demandes de tests. Il faudrait, disent-ils, donner la priorité aux personnes qui ont le plus de risques, a priori, d'être testées positives et donc de diffuser le virus. Ces personnes, ce sont celles qui ont des symptômes, bien sûr, et aussi celles qui sont des cas contacts. Autrement dit, écoutez bien, des personnes qui ont fréquenté un cas positif pendant 15 minutes, sans masque, soit dans la même pièce, quelle que soit la distance, soit à moins d'1 mètre si on est en extérieur, à la terrasse d'un restaurant, par exemple.
Précision signée Anne Le Gall pour Europe 1. Une cinquantaine de cas détectés dans une maison de retraite de l'Aveyron. Deux pensionnaires de cette EHPAD de Sévrac-le-Château ont été hospitalisés. Et les autres personnes contaminées sont asymptomatiques, annonce l'Agence régionale de santé. Et puis toujours dans l'Aveyron, à Rodez, le musée Soulages restera fermé 2 semaines après 6 cas avérés de Covid-19 parmi les agents d'accueil et de surveillance. Faute de main-d'œuvre suffisante pour compenser les malades, le musée restera fermé jusqu'au 20 septembre.
Europe 1, le 22-22-30.
C'est une série macabre qui choque les amoureux des animaux, mais pas seulement. Au moins une trentaine d'attaques sur des chevaux a eu lieu un peu partout en France depuis le début de l'été. Poneys mutilés, chevaux lacérés, parfois mortellement. Plus d'une centaine d'enquêtes a été lancée ces dernières semaines. Et pour la première fois, un homme a été placé en garde à vue. Il a été arrêté dans le Haut-Rhin, Guillaume Bier.
Oui, arrêté chez lui, près de la frontière allemande. C'est un homme de 50 ans qui était dans le collimateur des gendarmes depuis plusieurs jours, notamment car il correspond au portrait robot diffusé par les enquêteurs. Un portrait robot établi après l'agression dans Lyon d'un propriétaire de ranch, lui-même blessé il y a 2 semaines par 2 hommes qui s'en étaient pris à ses poneys. D'après nos informations, ce portrait robot a fait tilt chez un gendarme qui a orienté ses collègues de la section de recherche de Dijon vers ce suspect. Ce matin, le quinquagénaire a donc été interpellé, placé en garde à vue, perquisition menée à son domicile. Sur son profil, on sait simplement qu'il n'a rien à voir avec le monde équestre ou animal et qu'il est déjà connu de la justice. Il a été condamné il y a 10 ans après avoir été arrêté en possession d'une petite quantité de drogue. Prudence pour le moment, les vérifications sont en cours. Les gendarmes cherchent des indices ou des liens avec une ou plusieurs affaires de mutilation, mais pour l'instant, ce suspect reste présumé innocent. Sachant de toute façon que les enquêteurs sont à la recherche de plusieurs auteurs vu la multitude d'attaques perpétrées d'un bout à l'autre du pays sur une large moitié nord.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Et à ce sujet, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et son homologue à l'agriculture, Julien Denormandie, se sont rendus ce soir dans l'Oise, département où plusieurs cas de mutilation d'équidés ont eu lieu ces dernières semaines. Les propriétaires de chevaux ne doivent pas se faire justice eux-mêmes, a demandé Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui a livré ce matin un diagnostic sans appel. La France est malade de son insécurité. Gérald Darmanin a dévoilé plusieurs mesures du plan qui sera présenté mercredi lors d'un séminaire gouvernemental. Il promet notamment de détailler chaque mois les chiffres de l'insécurité. Jean-Rémy Baudeau, on se trompe ou on se croirait revenu au temps d'un certain Nicolas Sarkozy ?
C'est vrai qu'il y a des similitudes entre les annonces de Gérald Darmanin et la politique menée par l'ancien président quand il était place Beauvau. Des annonces, mais aussi beaucoup de com', car tous les mois, les services statistiques du ministère de l'Intérieur publient déjà des chiffres, les homicides, les cambriolages. La nouveauté, c'est que Gérald Darmanin veut aussi publier d'autres indicateurs, le nombre d'heures en patrouille, le nombre de dérives sectaires. Mais au fond, on fait face à la même logique. Le risque de la politique du chiffre, dénoncé à l'époque justement de Nicolas Sarkozy, faire du chiffre, remplir des tableaux, des graphiques et n'avoir que peu d'effet sur la réalité du terrain, sur le ressenti des Français. Un risque qui semble réel. Marlène Schiappa promet, par exemple, de doubler le nombre de verbalisations pour du harcèlement de rue. Une injonction au préfet qui risque d'avoir plus d'effet sur les rapports chiffrés des policiers que sur le sentiment d'insécurité des femmes.
Ça, c'est sur le fond, mais sur la forme. Darmanin, il fait aussi du Sarkozy ?
Eh bien, un petit peu. Gérald Darmanin, très actif sur tous les fronts, sur le terrain. Quand vous suivez un tel homme politique, ça donne un peu le tournis. Et la comparaison avec Nicolas Sarkozy va jusque dans le style, sa manière de parler. Prenez, ce matin sur BFM TV, Darmanin utilise des termes comme « consommer des stupéfiants, c'est de la merde », il parle des bagnoles, de la BAC, de ceux qui emmerdent la vie de tout le monde. Alors, est-ce que c'est du franc-parler ? Peut-être, mais ces expressions font grincer des dents, rappellent le langage de Nicolas Sarkozy. Et comme le dit un macroniste de premier plan, les gens attendent de nous un peu de tenue. On n'est pas populaire en parlant mal. Fin de citation.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Journée éprouvante au procès des attentats de janvier 2015. L'audience a été en partie consacrée au visionnage des images de l'attaque des frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo. Scène insoutenable que ces corps criblés de balles au milieu des imprimantes et des feuilles de papier. Plusieurs familles de victimes ont d'ailleurs quitté la salle en pleurant. Malgré la douleur, il fallait diffuser ces vidéos selon maître Cathy Richard, l'une des avocates des parties civiles. Écoutez son émotion à la sortie de l'audience et de la diffusion de ces images sur lesquelles elle a reconnu T-News, l'un de ses amis.
J'avoue que pour moi, là, maintenant, tout de suite, l'avocat se dispute avec l'ami. Enfin, je connaissais très bien T-News, qui était un garçon extraordinaire. Et donc, pendant un certain temps, j'ai du mal à être avocat seulement. On est saisi d'une part par la motivation qu'on sent très forte hein, de la part des frères Kouachi. On les voit déterminés, sans hésitation. On sait aussi qu'un bon nombre des victimes ont été lâchement assassinées, hein, de balles tirées d'arrière vers l'avant. C'est une scène d'horreur, c'est une scène de guerre hein, qui s'est passée en 1 minute 45. On les voit également à la sortie tuer ce policier qui leur dit « Chef, chef, ça va ? C'est bon, chef, c'est bon. » Et il l'assassine, il l'achève. Il va falloir mettre de l'humanité dans ce procès. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est inhumain. On a vu des machines de guerre.
Maître Cathy Richard, l'une des avocates des parties civiles, au micro européen de Chloé Triomphe. Le procès des attentats de janvier 2015, où l'obligation permanente du port du masque qui avait été allégée la semaine dernière, a finalement été rétablie ce matin par la cour d'assises spéciale, y compris pour les prises de parole des accusés et de leurs avocats.
Europe 1. Le 22-22-30.
22h11, la suite de votre journal de la nuit avec à l'étranger la sortie du coma artificiel d'Alexei Navalny. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'hôpital berlinois où l'opposant russe est soigné pour empoisonnement. Navalny réagit quand on lui parle et va par étapes cesser d'être sous respirateur artificiel, expliquent ses médecins. L'Union européenne appelle ce soir à la libération immédiate de tous les opposants biélorusses emprisonnés. Demande après l'arrestation ce matin de Maria Kolesnikova, seule figure de l'opposition au président Loukachenko qui a choisi de rester en Biélorussie. Tout ce qui a été signé doit être respecté. L'avertissement du négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier, au Royaume-Uni. Boris Johnson espère un accord d'ici le 15 octobre, mais il a fait savoir aujourd'hui qu'il allait modifier quelques points du traité de sortie à propos de l'Irlande du Nord. Les négociations sur le Brexit vont entrer dans leur phase finale cette semaine à Londres. On passe au tennis. Le tournoi de Roland-Garros s'approche à grands pas. Il débutera dans 3 semaines et on en sait un peu plus depuis cet après-midi sur les conditions sanitaires qui vont être mises en place, Corinne Boulou. Il y aura des spectateurs, mais un peu moins que prévu.
Oui, il y aura bien du public dans 3 semaines, mais les organisateurs du tournoi parisien ont dû revoir leur plan à la baisse. Ils espéraient 20 000 personnes en début de tournoi. Ce sera une jauge réduite à 11 500 spectateurs par jour. Et surtout, le public ne pourra pas déambuler comme il le souhaite. Le site de 12 hectares sera compartimenté en 3 zones autour des 3 grands cours. 5 000 spectateurs dans la zone du Châtrier, 5 000 aussi dans celle du Langlaine et 1 500 dans celle du cours Simone Mathieu. Comme nous l'a expliqué tout à l'heure le directeur général de la FFT, organisatrice du tournoi, Jean-François Villotte.
Le public qui sera titulaire d'un billet du Simone Mathieu ou du Philippe Châtrier ou du Suzanne Lenglen ne pourra pas, malheureusement, mais c'est la situation sanitaire qui l'impose, passer d'un site à l'autre. Donc, 3 entités distinctes pour gérer le public et les flux de circulation.
Et il n'y aura pas de billetterie pour les cours annexes. Les épreuves de qualification se disputeront, elles, à huis clos à partir du 21 septembre. Et 2 hôtels seront quasi réservés pour les joueuses et les joueurs pour limiter les contacts extérieurs, sans compter les tests PCR qui seront réguliers tout au long de la quinzaine.
Corinne Boulou, qui commentera en direct pour Europe 1 ce Roland-Garros automnal à partir du 27 septembre. En football, Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19. L'attaquant des Bleus est forfait pour le match France-Croatie demain soir à Saint-Denis. Il a appris le résultat de son test après l'entraînement qui a eu lieu ce soir. Il pourrait donc avoir contaminé d'autres joueurs au sein de la sélection. Et puis en Ligue 2, après Toulouse et 3, c'est au tour de Caen de changer de propriétaire. Le club normand a été racheté par un fonds d'investissement américain. 11 clubs tricolores battent désormais pavillon étranger. On passe à la météo de demain.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Anissa Haddadi, demain, ce sera un peu plus nuageux.
Oui, alors ça sera très léger, Julien, je vous rassure. Demain, c'est quand même le soleil qui l'emporte. Ça va concerner le nord de la Loire, plus précisément les régions qui se situent au nord de la Seine demain, où les grisailles vont s'imposer dès le début de journée. Et puis dans le sud, c'est du côté du Roussillon que le ciel sera un peu plus couvert. Partout ailleurs, c'est vraiment un début de journée très agréable et ensoleillé. Dans l'après-midi, le ciel reste nuageux au nord de la Seine, avec sur le nord, la Normandie, la région parisienne, des nuages un petit peu plus épais. Et puis sur les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, là, quelques gouttes sont prévues dans l'après-midi. Ça sera vraiment très local. Ailleurs, il fait très beau. C'est un mardi estival. Les températures, elles sont stationnaires le matin avec 5 à 11 degrés sur l'ensemble du pays, 10 à 14 au nord-ouest et jusqu'à 19 degrés au bord de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, allez, ça grimpe un petit peu, on va le sentir avec 21 à Cherbourg, 23 à Lille, 25 pour Paris, 27 à Perpignan et Limoges, 28 à Lyon, 29 à Bordeaux, 30 à Marseille et 31 la maximale pour Nîmes.
Merci Anissa Haddadi.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Toutes les infos de la bourse, top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview éco. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Frédéric Rossi, directeur général délégué en charge de l'export chez Business France. A tout de suite. 22h17 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
La bourse de Paris a profité de la fermeture de Wall Street aujourd'hui pour remonter au-dessus des 5000 points.
Oui, c'est la fête du travail. Hein. Aux États-Unis, pas de cotation à Wall Street. Et du coup, oui, les marchés ont été calmes en Europe, mais plutôt bien orientés. À Paris, le CAC 40 a regagné 1,79% au-dessus, oui, des 5000 points. 5053 points. Après une fin de semaine dernière sous pression, ce sont les valeurs exportatrices qui ont repris de la vigueur, en particulier l'aéronautique qui avait beaucoup baissé ces dernières semaines. On a Airbus qui remonte de 6%, on a Safran qui reprend 3,7%, Thales plus 3%. Et puis l'automobile, ça se tient mieux encore. On a Peugeot plus 2,4% à 15,51 €. Surtout Renault plus 3% qui remonte au-dessus des 25 €. Là, c'est le broker JP Morgan qui vise désormais un cours de 32 € sur Renault, fort d'une nouvelle organisation par marque. Renault gagne 3% ce soir, 25,16 € exactement. Sur les devises, c'est plus calme. L'euro reste sur les 1,18, 1,18,20 face au dollar.
Exception du jour, le secteur bancaire a marqué une pause.
Oui, le secteur qui s'était agité, le secteur financier en fin de semaine dernière, à l'écoute du mouvement de concentration dans le compartiment financier en Espagne en particulier, avec les discussions qui ont lieu en ce moment entre Bankia et CaixaBank, en vue d'un mariage possible. Et cette fois, donc, on a soufflé à Paris après la hausse de la semaine dernière. La Société Générale a redonné 1%, Natixis moins 0,7%, BNP est stable ce soir. On va sans doute en reparler assez vite de ces mariages dans le secteur bancaire et il pourrait y avoir encore pas mal de spéculation dans ce compartiment de la cote. Sur les autres places financières, ça remonte sur le DAX à Francfort, plus 1,8%, à Milan aussi, plus 1,8%, à Bruxelles, plus 1,5%, à Madrid, plus 1,3%. Et donc le CAC 40 en hausse d'1,79% repasse les 5000 points, 5053 points.
Pour être exact, merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à demain. À demain. 22h et bientôt 20 minutes sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Frédéric Rossi, directeur général délégué en charge de l'export chez Business France.
Bonsoir Frédéric Rossi.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général délégué en charge de l'export chez Business France. Business France, c'est l'organisme français qui accompagne les entreprises françaises à l'international et les entreprises étrangères pour leur investissement en France. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est parce que vous vous occupez des VIE, le volontariat international en entreprise. Grosso modo, une entreprise prend un jeune et l'envoie développer des marchés à l'international, un dispositif que le gouvernement vient de décider de booster dans le cadre du plan de relance. Concrètement, le gouvernement annonce plus d'argent. Première question toute simple, ça va servir à quoi ?
Alors le VIE, c'est déjà un outil pour les entreprises, pour leur permettre de se développer à l'international. On a à peu près 10 500 VIE dans le monde qui étaient actifs juste avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, évidemment, les volumes ont quelque peu baissé. Mais on est persuadé qu'avec les difficultés pour se déplacer à l'international, le VIE, qui est un jeune de moins de 28 ans qui travaille au développement international d'une entreprise dans un pays étranger à l'autre bout du monde, permettra de maintenir une présence physique sur le marché pour les entreprises exportatrices et donc de leur donner un avantage très important dans le contexte actuel. Cette nouvelle aide, elle sera débloquée à partir de janvier prochain, mais les missions se décident dès maintenant pour que les jeunes puissent partir dans quelques mois. Et elle sera matérialisée par un chèque relance VIE d'un montant de 5 000 € pour toute nouvelle mission de VIE déclenchée par une PME ou une ETI exportatrice.
Quand on ne connaît pas très bien le montant d'un VIE, 5 000 €, c'est compliqué de savoir si c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de booster ce dispositif. Est-ce que c'est important ou pas ?
Les émoluments d'un VIE sont variables selon les pays, en fonction du coût de la vie dans le pays. Mais si on prend la moyenne mondiale, ça représente à peu près 15 à 20% du coût annuel d'un VIE pour une entreprise. Et donc, pour une PME ou une ETI qui se pose des questions sur l'international, c'est déjà un booster suffisamment significatif. Ensuite, ça peut être tout à fait complété par les aides mises en place par des régions, selon des dispositifs qui sont très variables d'une région à l'autre, mais qui financent en général 6 mois, 1 an d'une mission VIE.
Donc c'est véritablement pas neutre, et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire de faire surtout en sorte que les petites entreprises qui n'ont pas de gros moyens en la matière n'arrêtent pas d'aller prospecter à l'international grâce à ces jeunes qui sont envoyés dans les pays du monde entier. C'est vraiment ça l'objectif, hein.
Exactement. On a un baromètre pour suivre de manière très précise les démarches de développement international des PME et des ETI pendant cette période de crise. Et on a un indicateur qui est assez inquiétant, c'est que aujourd'hui, à peu près 30% des PME françaises n'ont toujours pas repris des activités significatives de développement de nouveaux marchés export. Et elles nous disent en plus que leur carnet de commandes, qui était plein au mois de mars dernier, commence à se tarir significativement. Et donc, il est très important qu'on puisse ramener rapidement les PME françaises, et particulièrement les plus petites, vers les marchés internationaux. Et on a pour ça cet outil du VIE, qui est un outil d'ailleurs unique au monde et que la plupart des autres pays nous envient. Donc...
Il y a un point qui est extrêmement important dans ce que vous dites. On peut envoyer aujourd'hui des VIE partout dans le monde, malgré le Covid ?
Aujourd'hui, on a toute l'Europe qui est ouverte à l'exception de 1 ou 2 pays. Et puis, on réouvre progressivement un certain nombre d'autres destinations. Donc, le Canada est ouvert, la Corée a réouvert. Mais effectivement, on a encore une grande majorité des pays à l'étranger sur lesquels on ne peut pas, sauf affectation au cas par cas, envoyer des jeunes physiquement sur le marché. Par contre, on a une nouvelle possibilité qui a été ouverte depuis quelques mois, c'est de recruter le jeune VIE d'abord pour travailler dans l'entreprise en France, et c'est très important pour une PME parce que pendant quelques mois, un maximum de 6 mois, il va pouvoir se familiariser avec l'ensemble des produits, des process de l'entreprise, rencontrer tout le monde. Et puis ensuite, dès que la frontière sera ouverte par rapport à son pays de destination, il pourra rejoindre son activité, son pays, en étant armé et en connaissant véritablement tout le monde et toutes les arcanes de l'entreprise pour pouvoir véritablement développer l'activité.
Ça, c'est aussi un point très important. Ce qui est aussi un élément peut-être déterminant, c'est que toutes ces mesures viennent s'inscrire dans une stratégie plus large pour permettre aux entreprises de continuer à conquérir l'export, puisqu'à cause du Covid, tout a été freiné. Il y a par exemple ce qu'on appelle des chèques export. Vous pensez que ça aussi, c'est de nature quand même à soutenir toutes ces entreprises qui mettent le pied sur le frein ?
Oui, tout à fait. On a mis l'accent dans le cadre de ce volet export du plan de relance sur deux aspects. D'une part, la digitalisation maximale des services de prospection des marchés à l'étranger. Donc, on va mettre en place des plateformes de e-commerce pour un certain nombre de produits français, pour les mettre en relation avec des acheteurs qualifiés par l'ensemble des bureaux Business France, Team France Export dans le monde. Et puis le deuxième, c'est de rendre les services d'accompagnement export le plus accessible possible aux PME et aux entreprises les plus petites. L'État a décidé de mettre un ticket modérateur, une aide sous forme de chèque relance export pour toute entreprise française, PME ou ETI qui ira développer un nouveau marché et qui du coup ira sur un salon ou qui utilisera les services d'un consultant ou d'un service d'accompagnement comme Business France.
On va suivre tout cela. Un grand merci Frédéric Rossi, directeur général délégué en charge de l'export chez Business France. On se retrouve nous demain 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant. On va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire à la une de vos journaux demain matin. Journaux qui mettent à l'honneur, pour beaucoup d'entre eux, Boris Johnson. C'est le Brexit qui redéboule, titre Libération sous une photo du Premier ministre britannique en train de savourer une glace de boule vanille chocolat. À quelques semaines de la fin des négociations sur l'accord de libre-échange entre Londres et Bruxelles, Boris Johnson multiplie les déclarations à l'emporte-pièce et rend de nouveau crédible la perspective d'un no deal, écrit Libé. Brexit, le nouveau coup de force de Londres, titre Les Échos. Brexit, le nouveau bluff de Johnson, ajoute de son côté l'opinion. Bluff car si le Premier ministre britannique clame que son pays sera prêt à pallier l'absence d'accord avec l'Union européenne, tout laisse à penser qu'il en désire un plus que tout, écrit le quotidien libéral dont le dessin en une fait sourire. On y voit Boris Johnson nu face à une femme représentant l'Union européenne, elle aussi dans son plus simple appareil, et pour cacher leur sexe, deux prises électriques de type européenne pour la femme, de type britannique évidemment pour Johnson qui pose cette question. Et pourquoi c'est moi qui devrais mettre un adaptateur ? La Croix titre pour sa part sur un tout autre sujet. Ce que cherche Erdogan, le président turc ne compte plus sur des alliances avec l'Occident pour faire avancer les intérêts de son pays. Mais c'est l'éditorial de La Croix qui attire davantage l'attention. Sécurité, encore, s'interroge Fabienne Lemayeux au sujet du séminaire gouvernemental mercredi qui sera centré sur la sécurité ou plutôt l'insécurité. Comme un petit goût amer de déjà-vu, écrit l'éditorialiste qui rappelle qu'au lendemain du 11 septembre 2001, les questions sécuritaires avaient déjà émergé 18 mois avant la présidentielle avec le résultat qu'on connaît. Il ne s'agit pas d'occulter les actes de violence et d'incivilité dont les Français sont victimes, ni de balayer la nécessaire réflexion autour des réponses sécuritaires et judiciaires à leur donner, écrit Fabienne Lemayeux. Mais à l'heure où la lutte contre le Covid ne suppose aucun répit et alors que la crise économique et sociale risque d'en laisser plus d'un sur le bord de la route, l'avenir du pays vaut mieux qu'un réchauffé d'argumentaires sécuritaires. Voici donc ce que vous pourrez lire demain dans vos journaux. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Bah, je vais très bien et vous ?
Écoutez, parfait, nous sommes en début de semaine, en pleine forme pour...
Pour redémarrer
cette libre antenne.
Où l'on peut vous joindre à tout moment au 39-21.
Exactement.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure Julien.